Léo Tolstoï, Khodinka. Je ne comprends pas cette obstination. Pourquoi veux-tu veiller toute la nuit et aller à la première heure te mêler au peuple, quand tu peux tranquillement demain aller dans la tribune impériale avec Tanvera? Et tu verras tout. Je te dis, Jacques, Berm m'a promis t'accompagner, et comme demoiselle d'honneur de l'impératrice, c'est ton droit. » Ainsi parlait le prince Paul Golitsyn, très connu dans toute la haute société qu'il avait surnommé « Pigeon », à sa fille de 23 ans, Alexandra, que ses familiers appelaient Rina. Cette conversation avait lieu le soir du 17 mai 1893 à Moscou, la veille de la fête populaire du couronnement. Voici de quoi il s'agissait. Rina, une forte et belle jeune fille, au profil caractéristique des Golitsyn, née busquée d'oiseaux de proie, avait déjà passé la première période d'enthousiasme pour les bals et les soirées, et était, ou du moins se croyait, une femme avancée aux idées populistes. Elle était fille unique et favorite de son père et faisait tout ce qu'elle voulait. L'idée lui était venue d'aller à la fête populaire avec son cousin, non à midi avec toute la cour, mais avec le peuple, avec les portiers, avec les palefreniers de la maison qui voulaient assister à la fête et partir de très bonne heure. « Mais père, je ne veux pas regarder le peuple. Je veux être avec lui. Je désire me rendre compte de ses sentiments envers le jeune tsar. Ne peut-on pas au moins une fois ?»« Eh bien, fais ce que tu voudras. Je connais ton obstination. » »« Ne te fâche pas, mon cher papa. Je te promets d'être raisonnable et Alex sera avec moi. » Quelque étrange et saugrenu que parut au père cette idée, il dut en passer par là. « Sans doute, prends, répondit-il à sa question, si elle pouvait prendre leur remise. Tu iras en voiture jusqu'à Khodinka, et tu la reverras. » « Entendu, alors tout va bien. » Elle s'approcha de son père. Par habitude, il fit sur elle un signe de croix, elle baisa sa longue main blanche, et ils se séparèrent. Le même soir, dans le logement que louait Marie Yakovlevka à des ouvriers d'une fabrique de cigarettes, on causait également de la fête du lendemain. Emiliano Lagouni était dans sa chambre avec des camarades qui s'étaient réunis chez lui et il convenait de l'heure de sortir. « Oh, je crois qu'il vaut mieux ne pas se coucher, autrement on peut dormir trop tard, » disait Jacques, un garçon très gai, qui logeait derrière la cloison. « Pourquoi ne pas dormir ?» objecta Emilian, « nous sortirons à l'aube. Les camarades l'ont dit. »« Bon, alors, si on se couche, il faut se coucher tout de suite. Seulement, Semyonitch, éveille-moi. » Semyonitch, c'est-à-dire Emilian, promit. Et lui-même, prenant de sa table des fils de soie, s'approcha de la lampe et se mit à coudre un bouton à son pardessus d'été. Cela fait, il prépara son habit des dimanches et le posa sur le banc. Puis il brossa ses bottes, ensuite il fit sa prière, c'est-à-dire récita le pater et l'ave, dont il ne comprenait pas le sens et qu'il n'avait jamais cherché à comprendre. Enfin, ayant ôté ses bottes et son pantalon, il se coucha sur le matelas aplati de son lit grinçant. « Pourquoi pas ? » pensa-t-il. « Il y a des gens qui ont de la chance. Peut-être moi aussi, j'ai un billet de loterie. » Puis le bruit courait parmi le peuple que, sauf les cadeaux, on distribuait aussi des billets de loterie. « Ne demande pas de 10 000 roubles, mais au moins 500. Ce que je ferais si j'avais cet argent ? Ben, j'enverrai au vieux, je ferai revenir ma femme. Est-ce une vie d'être toujours séparé ? M'achèterai une bonne montre, je ferai faire une pelisse pour elle et une pour moi. Tandis que maintenant, on traîne, ben, c'est toujours la misère. Et il se voit se promenant au jardin Alexandre avec sa femme. Il voit ce même agent de police qui, cet été, l'avait arrêté parce qu'il était ivre-mort. Cet agent n'est plus agent, mais général, et l'invite à venir au restaurant à entendre l'orchestre. Et l'orchestre joue, et on dirait une pendule qui frappe les heures. Simeon Nietzsche s'éveille. Il entend que la pendule sonne, que derrière la porte la logeuse Marie Yakovlevna tousse, et que par la fenêtre il fait déjà plus clair qu'hier soir. Oh, pourvu que je n'ai pas manqué l'heure! Emiliane se lève, va pieds nus derrière la cloison, éveille Jacques. Il graisse ses cheveux, s'habille, se peigne, et se regarde dans son miroir cassé. « Bon, ben, je suis assez bien. C'est pourquoi les femmes m'aiment. » Il va chez la logeuse. Comme c'était convenu la veille, il prend dans son sac un gâteau, deux œufs, du jambon, une demi-bouteille d'eau-de-vie, et l'aube blanchit à peine quand lui et Jacques sortent de la cour se dirigeant vers le parc Petrovski. Ils ne sont pas seuls. Devant, derrière, de tous côtés, sortent et se massent des hommes, des femmes et des enfants, tous gais, bien habillés, et se dirigeant du même côté. Et on arrive ainsi jusqu'au champ de Khodinka. Le champ est déjà noir de monde. De différents côtés, il s'aperçoit de la fumée. La matinée est froide et les gens se sont procurés du bois, des branchages, et ont fait des bûchers. Emelian rencontre des camarades, et ensemble, ils firent eux aussi un bûcher autour duquel ils s'assirent avec leurs provisions. Enfin paraît le soleil pur, clair et gai. On se met à chanter, on bavarde, on plaisante, on rit, on s'amuse, de tout, on attend de la joie. Emiliane boit avec ses camarades, fume une cigarette et se sent encore plus joyeux. Tous étaient en fête et parmi les ouvriers et leurs femmes endimanchées, on remarquait de riches marchands avec leurs épouses et leurs enfants qui s'étaient mêlés au peuple. Dans la foule circulait aussi Irina Golitsyn, joyeuse, rayonnante à la pensée d'avoir atteint ce qu'elle voulait. Fêter avec le peuple, dans le peuple, l'avènement au trône du tsar adoré de ses sujets. Elle se promenait avec son cousin Alec entre les bûchers. « À votre santé, mademoiselle !» lui cria un jeune ouvrier de fabrique, en portant à ses lèvres un petit verre. « Ne voulez-vous pas être accueil avec nous ?»« Merci, buvez à votre santé !» dit Alec pour montrer qu'il connaissait les coutumes populaires. Et ils s'éloignèrent. Par l'habitude d'occuper toujours les premières places, se frayant un chemin dans le champ, parmi la foule, à l'endroit où elle était déjà très compacte, la foule était si dense que, malgré la pureté de l'air matinal, une sorte de brouillard produit par la respiration des gens épaississait l'atmosphère, ils se dirigeaient vers la tribune impériale. Mais les agents de police ne leur permirent pas d'avancer. « C'est bien, je vous prie, retournons là-bas, » dit Irina. Ils retournèrent dans la foule. « C'est un mensonge !» dit Emelian, assis avec ses camarades autour des victuailles étalées sur un papier. « C'est un mensonge !» dit-il en réponse au récit d'un ouvrier qui venait d'arriver et racontait ce que l'on distribuait au peuple. Mais comme je te le dis, c'est pas d'après la loi, mais on donne. Je l'ai vu moi-même. Il porte un paquet et un verre. Oh, sans doute ces maudits employés, qu'est-ce que cela leur fait? Ils donnent à qui veulent. Mais qu'est-ce que cela signifie? Peut-on agir contre la loi? Tout va bien qu'on le peut. Allons, camarades, il n'y a pas à attendre. Tous se levèrent. Emelian glissa dans sa poche la bouteille contenant encore de l'eau de vie et avança avec ses compagnons. Ils avaient fait à peine 20 pas qu'il devint très difficile d'avancer à cause de la bousculade. Où vas-tu? Et toi? Quoi, t'es pas seul? Assez! Mon Dieu, mais on étouffe! » Prononça une voix de femme. Des cris d'enfants éclatèrent d'un autre côté. « Que Dieu t'emporte! Mais enfin, il n'y a que moi, toi, on prendra tout. Je vais leur faire voir à ces diables. » C'était Emeliane qui criait et avançait ses larges épaules, jouant des coudes, se frayait un chemin en avant, ne sachant lui-même pourquoi, et si seulement parce que tout s'avançait, et qu'il lui semblait qu'il fallait absolument aller en avant. Derrière lui et de chaque côté se trouvaient des gens qui tous le poussaient, tandis que ceux qui étaient devant ne bougeaient pas et ne laissaient pas avancer. Tous criaient, geignaient, poussaient des hauts. Emeliane, les sourcils froncés, se taisait, serrait ses fortes dents et, sans se décourager, jouait des coudes et, bien que lentement, avançait. Soudain, tout s'ébranla et, avec une sorte de balancement, il se vit un mouvement en avant et à droite. Emeliane regarda de ce côté et aperçut un objet quelconque qui passait au-dessus de la foule. Un second suivit, puis un troisième. Il ne se rendit pas compte de ce que c'était, mais très près de lui, une voix s'écria. « Maudit diable, il jette dans le peuple !» Et là où tombaient les sacs renfermant les cadeaux, on entendait des cris, des rires, des pleurs, des gémissements. Quelqu'un poussa fortement Emeliane dans le côté. Il devint encore plus sombre et plus furieux. Mais avant qu'il ait eu le temps de se remettre de ce coup, quelqu'un lui marcha sur les pieds et son paletot neuf, s'accrocha à quelque chose et se déchira. La colère le gagna, et de toutes ses forces, il se mit à pousser ce qui était devant lui. Juste à ce moment, il arriva quelque chose qu'il ne parvint pas à comprendre. À l'instant, il n'y avait rien devant lui, sauf des dos humains, et voilà que maintenant, tout d'un coup, il voyait devant lui des tentes, ces mêmes tentes où devait avoir lieu la distribution des cadeaux. Il s'en réjouit, mais sa joie fut de courte durée, car bientôt il comprit qu'il apercevait tout cela uniquement parce que la foule s'était approchée du fossé, que tous ceux qui étaient devant venaient d'y tomber, et que lui-même allait être renversé sur ses gens, tandis que sur lui tomberaient ceux qui étaient derrière lui. Alors, pour la première fois, la peur le saisit, il tomba. Une femme en châle tapis tomba sur lui. Il se dégagea et voulut retourner, mais on le pressait par derrière et il n'avait pas la force de résister. Il s'élança en avant, mais ses pieds s'enfonçaient dans quelque chose de mou. Il piétinait des hommes. On lui saisissait la jambe, on criait, mais il ne voyait rien, n'écoutait rien et avançait en marchant sur les gens. « Mes frères, prenez ma montre, elle est en or, mais sauvez-moi, mes frères !» cria un homme près de lui. « Il ne s'agit pas de montre maintenant, » pensa Emeliane, et il continua à se frayer un chemin pour passer de l'autre côté du fossé. Dans son âme s'agitaient deux sentiments et tous deux pénibles. L'un, la crainte pour soi, pour sa vie, l'autre la colère contre tous ces hommes devenus fous qui le pressaient. Cependant, le but qu'il s'était assigné depuis le commencement, arriver jusqu'aux tentes, recevoir le sac de gâteau avec dedans un billet de loterie, ce but l'attirait. Les tentes étaient déjà à portée de vue. On voyait les employés chargés de la distribution des cadeaux. On entendait les cris de ceux qui étaient parvenus jusqu'aux tentes. On percevait les craquements des passerelles de bois sur lesquelles se pressait la foule. Emeliane fit un effort, il ne lui restait plus à faire que quelques 20 pas, quand tout à coup il entendit sous ses pieds, ou plutôt entre ses pieds, des cris et des pleurs d'enfants. Emeliane regarda. Un enfant, les cheveux en désordre, la blouse déchirée, couché sur le ventre, criait désespérément et s'agrippait à ses jambes. Quelque chose frappa Emeliane au cœur. La peur pour sa propre personne disparut, ainsi que la colère contre les hommes. Il eut pitié de l'enfant. Il se pencha, le saisit sous le ventre, mais les gens qui étaient derrière lui le poussaient tellement que lui-même faillit tomber et laisser échapper l'enfant. Mais en rassemblant toutes ses forces, de nouveau, il saisit l'enfant et le hissa sur son épaule. Ceux qui poussaient se mirent à pousser plus modérément et Emeliane porta l'enfant. « Donnez ici !» cria un cocher qui se trouvait à côté d'Emeliane. Il prit l'enfant et l'éleva au-dessus de la foule. « Passez-le par-dessus les gens !» Et, se retournant, Emeliane vit l'enfant porté de plus en plus loin, tantôt plongeant dans la foule, tantôt émergeant au-dessus des épaules et des têtes des gens. Emeliane continua à avancer. Il était impossible de ne pas suivre le mouvement, mais maintenant, ni le cadeau, ni le fait d'arriver jusqu'aux tentes ne lui faisaient plaisir. Il pensait à l'enfant et aussi à ce qu'était devenu Jacques et à ces gens écrasés qu'il avait vus en traversant le fossé. Parvenu à une tente, il reçut un sac et un gobelet de verre, mais cela ne le réjouissait plus. Ce qui, au premier moment, lui fut agréable, c'était d'en avoir fini avec l'écrasement, de pouvoir respirer et se mouvoir. Mais cette joie aussi disparut vite, à cause de ce qu'il aperçut ici. Une femme en robe à rayures déchirées, chaussée de bottines à boutons, les cheveux blonds défaits, était couchée sur le dos, les pieds dressés. Une main reposait sur l'herbe, l'autre était crispée au bas de la poitrine. Le visage n'était point pâle, mais bleuâtre, comme sont toujours ceux des cadavres. Cette femme avait été la première mortellement écrasée et jetée ici, devant la tribune impériale. Pendant qu'Emeliane la regardait, deux agents se tenaient près d'elle et un inspecteur de police donnait des ordres. Au même moment parurent les Cosaques. Leur chef leur ordonna quelque chose et ils s'élancèrent sur Emeliane et d'autres gens qui se trouvaient là et repoussèrent dans la foule. Emeliane tomba de nouveau. De nouveau, il se sentit écrasé. De nouveau, des cris, des gémissements de femmes et d'enfants. De nouveau, les uns écrasant les autres, ne pouvant faire autrement. Mais Emeliane ne ressentait plus maintenant ni pour lui, ni colère contre ceux qu'il bousculait. Il n'avait qu'un seul désir, s'en aller, se débarrasser de tout cela, examiner ce qui se passait dans son âme, fumer et boire. Il avait eu l'envie terrible de fumer et de boire. Enfin, il obtint ce qu'il voulait. Il gagna le large, alluma une cigarette et but. Avec Alec et Rinard, il était arrivé autre chose. Il n'attendait aucun cadeau et marchait dans la foule qui s'amassait, en parlant aux femmes, aux enfants, quand tout à coup, le peuple s'était rué vers les tentes où, disait-on, les employés distribuaient des cadeaux autres que ceux officiellement promis. Rina n'eut pas le temps de se retourner qu'elle était séparée d'Alec et entraînée dans la foule. L'horreur la saisit. Elle voulut se maîtriser, mais n'y parvenant pas, elle se mit à crier, à demander grâce. Mais il n'y avait point de grâce à attendre. On la pressait de plus en plus, sa robe était déchirée, son chapeau arraché. Elle aurait pu l'affirmer, mais il lui sembla qu'on lui avait arraché sa montre et sa chaîne. Elle était très forte et aurait pu résister. Mais l'état d'angoisse dans lequel elle se trouvait était si épouvantable qu'elle ne pouvait pas respirer. Déchirée, pressée de tous côtés, elle tenait bon quand même, mais quand les Cosaques chargèrent la foule pour la disperser, son désespoir devint tel que ses forces abandonnèrent et elle s'évanouit. Elle tomba et ne se rappela rien de plus. Quand elle reprit ses sens, elle était étendue sur le dos, sur l'herbe. Un homme, qui paraissait être un ouvrier, avec une barbiche en paletot déchiré, était accroupi devant elle et en lui aspergeant le visage avec de l'eau dont il avait rempli sa bouche. Quand elle rouvrit les yeux, l'homme se signa et cracha l'eau. Cet homme était Emelian.
« Qui êtes-vous? Où suis-je?
Vous êtes un Rodinka. Et moi, je suis un homme. On m'a aussi pas mal bousculé. Mais nous autres, nous pouvons supporter tout, » dit Emelian.
« Et qu'est-ce que c'est que ça ?»
Rina indiqua une quantité de petites pièces de monnaie posées sur son ventre.
« Ah ça, oh les gens vous croyez morte, mais ils donnaient pour les funérailles. Et moi, quand je vous ai regardé, non, me suis-je dit, elle vit encore, et je me suis mis à vous arroser avec de l'eau. »
Rina jeta un regard sur elle et remarqua qu'elle était toute en lambeaux, la poitrine à demi nue. Elle eut honte. L'homme comprit et lui rajusta ses vêtements.
« Ce n'est rien, mademoiselle, tu seras vivante. » Un grand nombre de personnes s'approchèrent ainsi qu'un agent de police.
Rina s'assit sur le sol et donna son nom et son adresse. Emelian alla chercher une voiture. Une grande foule s'était rassemblée. Quand Emelian arriva avec la voiture, Rina se leva. On voulut la faire monter, mais elle monta seule. Elle avait seulement honte à cause de sa robe déchirée.
« Et où est ton frère ?»
demanda une des femmes qui s'était approchée de Rina.
« Je ne sais pas,
prononça-t-elle avec désespoir. À la maison, elle apprit qu'Alec, tout au commencement de la catastrophe, avait réussi à sortir de la foule et était rentré chez lui indemne.
« C'est lui qui m'a sauvé, » dit Rina. « Sans lui, je ne sais pas ce qui serait arrivé. Comment vous nomme-t-on »
demanda-t-elle à Emelian.
« Moi, pourquoi ?»« C'est une princesse très riche, » dit une femme. « Accompagnez-moi chez mon père, il vous remerciera. »
Tout d'un coup, dans l'âme d'Emelian, jaillit quelque chose de fort. Il n'aurait pas changé contre le gros lot de 200 000 roubles.
« Quoi ? Non, mademoiselle, va chez toi, il n'y a pas de quoi remercier. »«
Non, je ne serai pas tranquille. »«
Adieu, mademoiselle, Dieu te garde. C'est bon, n'emporte pas mon paletot. »
Il eut un tel sourire joyeux que Rina se le rappelait comme consolation dans les moments les plus pénibles de sa vie.